Qu'est-ce qu'il va faire avec la peur?
Ce n'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes.
Cette conversation mondiale.
La parole appartient à moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pause et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial, une conversation mondiale comme tous les vendredis, consacrée ce soir à la post-vérité. À l'ordre du jour ce soir, la démocratie est-elle menacée par la post-vérité? Qu'il soit réélu ou non, Donald Trump aura été contemporain dans la sphère politique de l'émergence d'un concept, celui de post-vérité. Toute la semaine, France Culture a abordé ces élections américaines dans un très grand nombre d'émissions à réécouter sur notre site. Dans ce cadre, la conversation mondiale de ce vendredi est très heureuse de faire dialoguer, par-dessus l'Atlantique, Alice Kaplan. Bonsoir Alice Kaplan.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de littérature française à l'université de Yale et autrice d'un tract Gallimard, tout juste paru, écrit sous la forme d'un journal du passage au pouvoir, justement, de ce même Donald Trump. Un texte auquel vous avez bien voulu, pour nous, ajouter un post-scriptum publié cet après-midi sur notre site à la page de la Conversation mondiale. Nous vous en remercions et en parlerons avec vous. Pour discuter avec vous, la philosophe Myriam Revaud-Danone. Bonsoir Myriam Revaud-Danone.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'école pratique des hautes études et nous vous devons une réflexion très importante. C'était il y a 2 ans, publiée au Seuil, sous le titre de « La faiblesse du vrai ». C'était une réflexion justement sur la post-vérité. On va en parler avec vous deux. Alice Kaplan, je rappelle que vous venez d'écrire un tract Gallimard publié en grand format qu'on peut trouver dans les librairies. Alors évidemment, les librairies sont momentanément fermées. Peut-être vont-elles réouvrir bientôt en France. Et c'est assez amusant parce que c'est un texte à rebond, pourrait-on dire, que vous avez écrit en plusieurs fois. La dernière fois, c'était au moment du premier confinement et vous avez refait un post-scriptum et vous nous avez fourni ici au temps du débat un texte qui est une sorte de post-post-scriptum à votre premier texte qui s'intitule Turbulence USA 2016-2020. Et dans le texte que vous nous avez fourni, vous dites on a touché peut-être à la narration même, à la possibilité de raconter ce qui nous arrive depuis 2016. Nous n'arrivons pas à croire jour après jour que nos plus simples certitudes sur la stabilité de la démocratie aient pu être si facilement brisées en si peu de temps. Et vous évoquez le tweet d'un scénariste qui dit en fait qu'au bout du compte, il a repoussé, Donald Trump, les limites de la fiction.
Oui, c'est ça. On n'arrive pas. Alors là, je pense que j'ai utilisé le mot vraisemblance pour dire que tout ce qui nous arrive est invraisemblable dans le sens théâtral, c'est-à-dire c'est une très mauvaise matière pour un scénario de film. Ça ne marcherait pas en tant que fiction. C'est tellement bizarre.
Qu'est-ce qui s'est passé justement pendant tout ce temps, ce que vous nous racontez dans votre tract Gallimard, c'est-à-dire cette longue période de 4 ans dont vous dites à certains endroits que vous vous demandez qui pourra raconter l'histoire américaine de cette époque, par exemple, qui va narrer ton histoire comme on le chante dans la comédie musicale à grand succès qui s'appelait Hamilton.
Oui, alors pour moi le début c'était cette histoire de l'affaire des origines, où Trump a accusé Obama d'illégitimité parce qu'il a dit qu'il n'était pas né aux USA, ce qui n'était complètement faux. Mais plein de gens ont voulu croire que Trump avait raison et que Obama n'avait pas le droit d'être président. Alors ça, c'est un bon exemple, je pense, de cette post-vérité. C'est la vérité qu'on voudrait. On a un mot pour cela en anglais, c'est « truthiness oui. ». C'est le vouloir être vrai.
Oui. Et vous avez travaillé, Myriam Revaud-Danone, sur cette question de la vraisemblance du vrai et du faux pour votre livre « La faiblesse du vrai ». Vous avez lu le tract d'Alice Kaplan pour les éditions Gallimard. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet exemple de Donald Trump, qui d'ailleurs a assez souvent servi d'exemple, y compris à vous, pour pouvoir évoquer cette question de la post-vérité?
Alors, je crois l'exemple de le cas de Donald Trump est d'autant plus pertinent que l'émergence de la notion de post-vérité est apparue massivement après le Brexit et après l'élection de Trump à la présidence des États-Unis. Et ce qu'on a vu, alors c'est un problème évidemment qui est issu de la sphère politique, mais dont je pense qu'il n'est pas du tout lié seulement à la sphère politique, mais au type d'expérience que nous pouvons partager. Et là, je suis d'accord avec Alice Kaplan quand elle dit « je ne suis pas tellement d'accord avec la formule « nous vivons une histoire qui dépasse tout roman ». Moi, je dirais plutôt « nous vivons une expérience qui, d'une certaine façon, nous interdit d'écrire des romans » ou qui détruit la possibilité même de la fiction. Et tout le problème, c'est de savoir ce qu'on entend par fiction. Je dirais que la post-vérité et le comportement de Trump fait que, au fond, les ressources de l'imagination sont en quelque sorte bridées. Parce que la réalité alternative ou les réalités alternatives dont parlait par exemple la conseillère de Trump au moment de son investiture, ces réalités alternatives ne sont pas du tout une production de la puissance de l'imagination. C'est une occultation au fond d'une réalité qui nous permettrait de déployer l'imagination.
Oui, parce que pour vous, et c'est ce que vous expliquez dans La faiblesse du vrai, Myriam Revaud-Allonne, du moment que l'on est, même si on n'est pas d'accord sur le vrai et le faux, mais du moment qu'on a une notion du vrai et du faux dans nos sociétés, cela permet justement cette ouverture vers la fiction, qui serait justement cette réalité autre, racontée autrement, d'une certaine façon. Et le fait que ces frontières entre vrai et faux soient brouillées, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, nous empêche justement ce passage vers l'imagination. Imagination romanesque, par exemple,
absolument,
de fiction.
Alors là, je suis beaucoup plus optimiste que vous deux. Je dirais que justement, c'est la fiction qui m'a aidé à traverser cette époque.
C'est-à-dire
contre le tweet de Trump qui ressemble à une sorte de newspeak. Nous avons la phrase de Proust, par exemple, qui résiste à ce genre de pensée. Ou même, j'ai beaucoup réfléchi récemment au pamphlet de Céline, en me disant que tout ce qui se passe maintenant, c'est pas si neuf que ça. Parce que Céline, en commençant Bagatelle pour un massacre, avait bien dit, tiens, je vais les emmerder, je saisis ma plume étincelante et j'écris une de ces notes. C'est quelqu'un qui fait un tweet et c'est exactement ce que fait Trump. C'est pas exactement la langue dont parle Orwell, mais c'est une sorte d'expression de haine qui remplace la pensée.
Et ça, c'est d'ailleurs très intéressant parce que toutes les deux, vous évoquez cette question de Orwell, qui a souvent été brassée quand on parle de post-vérité, Alice Kaplan et Myriam Revaud-Allonne. Et vous terminez d'ailleurs votre tract Gallimard par cette phrase, Alice Kaplan, feuille de route, que 1984 reste un roman. Donc, et vous-même, vous évoquez justement, pour vous, dans votre réflexion philosophique, Myriam Revaud-Allonne, vous évoquez 1984, qui n'est pas justement exactement ce que l'on pense être la post-vérité.
Oui, tout à fait. Et là, je pense qu'il y a peut-être un malentendu sur... je ne suis pas particulièrement pessimiste, mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu entre Alice et moi sur ce que nous entendons par fiction. Quand je dis que ces réalités alternatives ou que cette espèce de scène de l'invraisemblable dans laquelle nous sommes plongés, c'est quelque chose qui, au fond, inhibe la production de l'imagination, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas résister par l'imagination. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas résister par la fiction. Il faut savoir ce qu'on entend par fiction. Il y a une fiction qui est la fiction esthétique, c'est le fait de fabriquer une réalité ou quelque chose qui est au-delà de la réalité immédiate et qui nous permet ensuite d'enrichir cette réalité. C'est le cas du roman, c'est le cas de l'œuvre d'art, c'est le cas du théâtre. Et là, dans ce cas-là, on a une fiction qui est une fiction productive et qui effectivement permet de résister. Et donc je suis d'accord que Proust permet d'une certaine façon de montrer qu'il y a autre chose de possible que les tweets. Mais le type de fiction qui est, sur lequel repose la post-vérité et qui suppose au fond une impossibilité de distinguer le vrai et le faux. D'ailleurs, la vérité, c'est pas forcément la vérité absolue. Il y a des régimes de vérité qui ne fonctionnent pas de la même façon dans les divers domaines. Donc, cette fiction trumpiste n'a rien de, comment dire, elle construit une réalité alternative qui non seulement, je suis d'accord, permet de croire ce qu'on a envie de croire, mais en démolissant totalement, en détruisant les normes de la distinction entre le vrai et le faux. Oui, donc ce que moi j'entends par fiction, ce que je veux dire, c'est qu'il y a fiction et fiction.
Alice Kaplan.
Non, je voulais dire, c'est juste ma sensibilité de prof de littérature qui fait que j'aimerais mettre fiction entre guillemets pour pour décrire ce que fait Trump. Alors sa dernière énormité, c'était d'annoncer que son administration avait combattu le Covid. Au moment même où les chiffres sont en montée désastreuse aux États-Unis, comme chez vous. Alors, est-ce que c'est une fiction? C'est quelque chose de tellement décalé à la réalité que on n'arrive pas à croire qu'il peut mentir à ce point.
Oui, mais il a déjà menti beaucoup, beaucoup de commentateurs, une spécialiste de sociologie des émotions, une de vos collègues, Alice Kaplan, qui travaille à Berkeley, qui s'appelle Harley Russell Hochschild, expliquait récemment que en fait, beaucoup de gens, en particulier des gens en voie de paupérisation, des blancs en voie de paupérisation, ont voté pour lui, alors que il détruisait le filet protecteur social, mais se présentait comme le grand protecteur du social auprès de cet électorat-là. Donc, ce type de mensonge, ça n'est pas simplement le Washington Post.
C'est affectif. C'est quelque chose que j'ai appris en travaillant sur les pamphlets, c'est-à-dire vous prenez un mensonge, vous répétez ce mensonge 10 000 fois et ça s'installe comme une vérité juste à force de répétition.
Et cela, peut-être, il faut le rejoindre, Alice Kaplan et Myriam Revaud-Allonne, au parcours de Donald Trump, certes, homme d'entreprise, ça on le sait, mais aussi, et vous le rappelez dans le texte que vous nous avez fourni, Alice Kaplan, producteur et présentateur de télévision, de The Apprentice, la série qu'il avait créée, avec sa fameuse phrase « You're fired », vous êtes viré à la fin, et effectivement... il a créé une fiction, c'était de la télé-réalité, donc c'était une fiction, mais ça s'apparaissait sous la façon du réel. Et il a mélangé les genres déjà avec la télé-réalité, Alice Kaplan.
Oui, on dit souvent que tout ça, c'est la faute de son producteur, de The Apprentice, si Trump est au pouvoir. Parce qu'il a créé un monstre là, avec cette émission de télévision et... C'est vrai qu'il a le don de la mise en scène d'événements politiques.
Et il a le don aussi de sentir un électorat et de comprendre effectivement ce qu'on attend de lui. Il aime être regardé, dites-vous, Alice Kaplan, et en aimant être regardé, il comprend presque intuitivement ce qu'on attend de lui, quelle est la figure qu'il peut donner et qui pourra lui rapporter le plus de suffrages dans un jeu télévisé ou le plus de voix dans une élection américaine.
Oui, mais en même temps, quelle dégradation! Enfin, je pense que j'aimerais penser que cela ne marche plus, surtout depuis les événements de cet été, depuis le Covid, que quelque chose s'est cassé pour lui.
Myriam Revaud-Allonne, vous avez analysé dans La faiblesse du vrai justement ce brouillage des codes entre vrai et faux, mais c'est vrai que d'une certaine façon, le succès des émissions de télé-réalité peut venir expliquer cela aussi. C'est-à-dire que on est face à des émissions qui sont extrêmement scénarisées, contrairement à ce que croient certains des téléspectateurs, extrêmement scénarisées, extrêmement écrites, avec des rôles qui sont parfaitement définis à l'avance et des acteurs qui jouent leur propre rôle d'une certaine façon. Et ça veut apparaître comme étant de la réalité. Il y a déjà un brouillage des codes dans ce type de spectacle de grande ampleur.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais revenir sur cette question justement de l'affectif. Pourquoi est-ce que Trump est arrivé à toucher, en dépit de toute, je dirais presque logique politique, des défavorisés qui, en fin de compte, au fond, n'ont absolument pas bénéficié des promesses fallacieuses qu'il leur a faites. Je pense que non seulement on croit ce que l'on veut croire ou ce que l'on a envie de croire, mais il y a des situations de crise dans lesquelles on en arrive à croire ce qu'on sait ne pas être vrai.
Oui.
Et qu'il y a une espèce de, comment dire, de double bind, ou une sorte de schizophrénie, de coupure, de scission interne, qui fait que, voilà, on se met à croire ce dont on sait que ça n'est pas vrai. Donc la question, c'est de savoir pourquoi. Dans quel contexte et dans quelle situation on en vient à ce genre de, au fond, de distorsion de la vérité et même de distorsion de la croyance. Et je pense que ce versant affectif a quelque chose à voir avec le fait que les gens sont tellement désespérés ou dans une situation tellement difficile qu'ils ont intégré l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a pas de société alternative, que le monde est tel qu'il est, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas d'alternative, et que donc il y a une espèce de projection dans cette espèce de dedans, dehors, dans cette expérience qui précisément projette les individus dans une impuissance encore plus grande.
Et il y a d'ailleurs,
nous sommes effectivement, c'est pas simplement la télé-réalité, il faudrait se demander de quoi la télé-réalité est-elle le symptôme.
C'est la vraie réalité.
Oui, ouais. Alice Kaplan.
Là, je pense à la campagne présidentielle de Hillary Clinton en 2016, elle qui évoquait les déplorables pour parler des gens qui allaient voter pour Trump. Et on s'est rendu compte après que non seulement est-ce qu'il y a cette déconnexion avec la réalité, mais les deux sphères de notre monde politique sont complètement dissociées jusqu'au point où les démocrates n'ont aucune idée de désaspération des républicains et vice-versa. Mmh. Donc nous sommes vraiment dans une sorte d'apartheid politique qui fait que personne ne comprend l'autre.
Dans une
Pense que c'est encore plus dangereux que cette situation en général.
Dans une des dernières conversations mondiales, le directeur et rédacteur en chef de Harper's Magazine, qui avait lancé donc ce texte sur la cancel culture, était notre invité et il disait en fait les démocrates n'ont pas compris effectivement, ils ont abandonné le social alors qu'il se dit lui-même proche des démocrates. Il dit ils ont abandonné le social et tout compte fait ils n'avaient plus qu'à s'en saisir Donald Trump pour pouvoir être élu. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de lecture, Alice Kaplan?
J'hésite à rentrer dans tous les débats autour du cancel culture parce que je pense justement qu'on a un tel danger dans la Maison Blanche qu'il faut que la gauche ou le parti progressiste soit unifié. Et c'est pas le moment de se prendre à l'aile gauche du parti démocrate.
Vous écoutez.
On n'a pas ce luxe.
Je comprends bien. Vous écoutez donc le temps du débat, l'émission spéciale du vendredi intitulée La conversation mondiale, en compagnie de deux intellectuels et écrivaines, Alice Kaplan, écrivaine, historienne, professeure de littérature française à l'université de Yale, et Myriam Revaud-Dallon, philosophe, professeure à l'école pratique des hautes études et autrice de La faiblesse du vrai.
France Culture, Global Sarum, Likes Debatem.
Dans un éditorial du New York Times, le chroniqueur Thomas Friedman disait que les réseaux sociaux avaient détruit, selon lui, deux piliers de la démocratie, la vérité et la confiance, en minant la capacité de la communauté à distinguer le vrai du faux. Vous évoquez cette question, Myriam Revaud-Allonne, dans votre Faiblesse du vrai. On accuse souvent les réseaux sociaux justement de cela, c'est-à-dire d'avoir brouillé les codes et d'être, on parlait de télé-réalité, mais d'être aussi un autre des supports justement à ce brouillage des codes entre faux et vrai dans nos sociétés. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Revaud-Allonne ?
Oui, c'est absolument indéniable, mais je pense que les réseaux sociaux, la multiplication de ce type de relais, c'est un vecteur. Et c'est pas seulement, ça n'est pas la seule cause.
Vous voulez dire que ça sert la propagation de ces idées, mais que
voilà,
ces idées étaient déjà là.
C'est-à-dire que pour en revenir au problème que vous posiez comme titre de l'émission, c'est-à-dire au fond en quoi la post-vérité affecte-t-elle la démocratie? Elle affecte la démocratie pas simplement sur le plan des institutions. On voit par exemple que la façon dont Trump méconnaît totalement ou il essaye de saper la séparation des pouvoirs, les institutions américaines. Mais la post-vérité ébranle la démocratie parce qu'elle ébranle la capacité à juger des citoyens, parce qu'elle ébranle la possibilité même du débat public, la possibilité même d'échanger des opinions. Parce que dans le débat démocratique, dans le débat public, les opinions, l'échange des opinions n'est valide que s'il repose sur des faits. Et à partir du moment où par exemple, quand Alice Kaplan disait les Républicains et les Démocrates n'arrivent même plus à s'entendre, ne savent même plus s'ils parlent de la même chose, ça c'est aussi un phénomène, au fond, qui est assez généralisé dans un certain nombre de pays où se développent certains types de populisme. Et l'effacement de la différence entre le vrai et le faux, le fait qu'on puisse dire absolument n'importe quoi, hein, par exemple, c'est ma vérité, c'est mon opinion, c'est ce que Trump a littéralement systématisé et hystérisé, parce qu'il dit n'importe quoi, sans se soucier de la réalité des faits. Quand il dit, par exemple, qu'il a mené une politique efficace contre la Covid-19, eh bien ça, c'est un ébranlement très profond des fondements même de la démocratie, c'est-à-dire des conditions de possibilité du débat public. Le débat public, ça consiste pas à dire n'importe quoi sur n'importe quoi, sans se soucier de la réalité des faits.
Et donc ça
consiste pas.
Et donc cela, effectivement, met à mal la question démocratique. On voit bien, effectivement, il y a quelques semaines, Bob Woodward, connu effectivement pour le Watergate, mais agissant toujours comme journaliste, et pourtant journaliste plutôt conservateur, eh bien Bob Woodward, interrogé pour un livre Donald Trump, qui assumait sans état d'âme d'avoir minimisé la réalité de la pandémie par souci d'éviter la panique. Et ça, j'imagine, Alice Kaplan, que ça participe aussi du débat très vif que l'on découvre aux États-Unis à l'occasion de cette élection présidentielle. La pandémie se rajoute.
Oui. Le rôle des médias, comment ils peuvent contrer ce pouvoir horrible de Trump. Mais là, je pense à quelque chose au niveau de l'anecdote que j'ai racontée dans le tract. C'est ma découverte il y a 2 ou 3 ans, en allant sur ma page Facebook, que quelqu'un avait inventé un faux moi et avait construit un profil de quelqu'un qui avait presque mon nom en prenant toutes mes photos sur l'Internet. Et cette expérience psychologique de me voir moi-même en quelqu'un d'autre avec plein de devises antisémites, enfin c'était très très violent, et de ne pas pouvoir me plaindre auprès de Facebook parce que c'était trop automatisé.
Oui,
j'ai mis
ce sont des algorithmes.
5 mois. Oui, c'est ça. Alors quand vous posez la question des réseaux sociaux, là j'ai vraiment eu l'expérience de façon très intime de de cet automatisme et ses dangers.
Et donc...
Je pense qu'il y a quelque chose au niveau... Enfin, tout ce que vous décrivez, nous le connaissons depuis toujours, le mensonge des hommes politiques, etc. Nous avons eu le Bush et l'Irak et tout ça, c'était du mensonge. Mais là, c'est du mensonge accéléré.
Bien sûr.
Accéléré par la technologie.
Et accéléré aussi par la crise de la Covid, en l'occurrence, Alice Kaplan, parce que cette crise de la Covid met en cause aussi parfois, chez vous comme chez nous, la vérité scientifique. Des gens disent...
Mais vous avez de la chance, je pense. Enfin, parce que ça a été tellement... Même le masque a été politisé ici. Vous n'avez pas ça, non ?
Un tout petit peu quand même.
C'est-à-dire
aussi.
Le port du masque, les gens sont machos, ils ont la liberté de ne pas porter de masque, et on a vu tout de suite le résultat.
Oui. Myriam Revaud-Allonne sur ce point.
Alors écoutez, moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il s'agit d'un mensonge accéléré tel que l'ont toujours pratiqué les hommes politiques. Bien sûr, on a l'habitude, on a l'expérience des mensonges d'État, et on a aussi, on vit beaucoup avec cette idée reçue selon laquelle, au fond, la politique est liée au mensonge. Mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est que il y a des régimes de vérité qui ne sont pas les mêmes dans toutes les disciplines. Je veux dire, le vrai ou la vérité en politique, elle résulte fondamentalement de l'échange des opinions. C'est pas de l'ordre d'une certitude scientifique. Ça n'est pas la même chose qu'une vérité mathématique ou une vérité scientifique. Et la deuxième chose, c'est que mentir, ce n'est pas annihiler la vérité. Mentir, c'est la nier, c'est la dissimuler. C'est dire le contraire, mais ce n'est pas abolir la vérité en tant que norme du jugement. Et donc, qu'il y ait du mensonge en politique, ce n'est pas la même chose que de dire que, au fond, on est dans la post-vérité. Qu'il y ait du mensonge en politique, ce n'est pas la même chose que de dire qu'on est indifférent, totalement indifférent à ou critères de vérité, même si ces critères sont différents en fonction des registres, en fonction des domaines, en fonction des disciplines. Alors, en plus, la post-vérité, maintenant, elle n'a pas simplement touché à ce qu'on appelle, elle n'a pas simplement atteint ce qu'on appelle les vérités de fait, c'est-à-dire les événements historiques, les réalités politiques.
La rotondité de la rotondité de la Terre, etc., etc.
Voilà. Maintenant, la post-vérité, elle a un rapport avec ce qu'on appelle les théories platistes, la Terre est plate, avec des discours absolument, incohérents sur les vaccins, ou encore avec l'impossibilité aussi, parce que ça c'est d'enseigner la théorie de l'évolution face à des créationnistes. Donc c'est pas simplement une atteinte aux vérités de fait, c'est pas simplement le fait de... Quand on nie la vérité, on peut toujours espérer que la vérité sera rectifiée. Quand on dit que la vérité n'a aucune importance, ça c'est tout à fait différent. Trump dit que la vérité n'a aucune importance.
Ouais. Alice Kaplan, qu'est-ce qu'on appelle...
Alors que souvent, excusez-moi, les politiques mentent parce qu'il importe de dissimuler la vérité. Oui. Ce n'est pas la même chose. Et ensuite, la vérité est rétablie.
C'est une stratégie.
Alice Kaplan, qu'est-ce qu'on appelle chez vous, aux États-Unis, le terme « outrage fatigue » que vous utilisez pour le texte que vous nous avez confié ?
Oui, « outrage fatigue ». On est fatigué, on n'en peut plus d'entendre les mensonges. Et chaque mensonge est une blessure... Et c'est comme si notre cortisol était en montée continue. Et puis, on est très, très fatigué. On n'a plus la force de dire, de remettre la vérité à sa place.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vit dans un régime comme celui-ci, on a l'impression, enfin, un régime de parole, c'est pas un régime politique, mais un régime de parole où il y a tant de fake news qui sont prononcées. quand on est un citoyen qui voudrait rétablir la vérité, on n'y arrive plus parce qu'on se dit mais
oui,
ça va prendre
tout. On a envie de se mettre dans son lit en position de fœtus. Je pense à ce que Orwell avait dit dans son essai sur la guerre en Espagne, qu'il y a des mots beaucoup plus dangereux que les bombes. Les gens qui disent que 2 plus 2 égale 5, c'est ça, on est outragé. Moi, je pense très, très souvent à la fiction. Je pense à la fatigue d'un personnage comme Winston qui, à la fin de ce roman, se rend au régime.
Oui.
Où je pense à Caligula de
Camus.
Camus qui décide que sa liberté ne concerne pas autrui.
Myriam Revaudet.
Oui.
Oui.
Non, sur ce point, effectivement, sur la fatigue de ceux qui voudraient défendre la vérité.
Je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut être gagné par la lassitude et par une immense fatigue quand on se donne pour tâche de montrer que, je dirais, l'esprit critique et le pouvoir d'une imagination, d'une véritable imagination, c'est-à-dire de pouvoir imaginer aussi bien une société autre, un monde autre. On peut être immensément fatigué quand on s'aperçoit que c'est très très difficile de mener ce combat d'abord de l'esprit critique. D'ailleurs, les journalistes en savent quelque chose parce qu'ils passent leur temps à faire du fact-checking. Et on dit souvent que le fact-checking, ou bien ne sert à rien, ou bien ne suffit pas à contrebalancer les effets de ces fake news et de cette post-vérité. Donc c'est un combat de très longue haleine, et c'est pour ça que j'insistais au fond sur cette question de la capacité à juger qui nécessite, quel que soit le régime de parole dans lequel on se situe, qui nécessite qu'on préserve à la fois les réalités de fait et les réalités scientifiques. Et de ce point de vue-là, la Covid-19, elle a intensifié cette lassitude. D'abord parce qu'elle a installé, elle nous installe dans une incertitude
permanente,
extrêmement difficile, très très difficile à vivre. Et surtout, au fond, par exemple, dans cette incertitude, on voit très bien, par exemple, que les chercheurs, les scientifiques, en fait, débattent entre eux et n'ont pas les mêmes interprétations. Mais quand on les voit discuter entre eux, on peut se dire deux choses. Ou bien la science est en train de chercher et les scientifiques, c'est tout à fait normal qu'ils échangent des positions, qu'ils débattent, qu'ils reviennent en arrière, c'est pas un processus linéaire. Ou bien on se dit... Ce que font un certain nombre de gens, ben vous voyez, les scientifiques, ils n'en savent pas plus que nous, il n'y a pas de vérité scientifique.
Alice Kaplan, sur ce point.
Donc, en fait, ça se retourne aussi en une espèce de critique des élites.
Alice Kaplan.
Mais en effet, je pense que nous sommes très fragilisés des deux côtés de l'Atlantique, pour différentes raisons, bien sûr. Et la question que je me suis posée depuis l'été, c'est comment militer dans une telle situation et j'ai trouvé une solution assez simple. Je me suis mise à écrire des cartes postales. Il y a un grand mouvement aux États-Unis de cartes postales pour encourager les gens à voter. Parce que une des problèmes avec notre démocratie en ce moment, c'est les problèmes avec les votes, les bureaux de vote, le droit au vote. Et même en faisant ces petites cartes postales, il y avait quelque chose comme du courage qui est revenu. Je ne sais pas comment le décrire, mais quelquefois, par les actes les plus simples, on peut reprendre courage.
Oui, d'ailleurs, expliquez-nous cette histoire des cartes postales, parce que j'ai découvert cette histoire en vous lisant. Et il y aura d'ailleurs la carte postale que vous nous avez envoyée, sera sur le site de France Culture à la page de la Conversation
c'est
mondiale.
C'est
quoi
bien.
Cette histoire donc,
Alors, il y a plusieurs mouvements, Reclaim Your Vote, Indivisible. Et l'idée, c'est de prendre contact avec les gens sur les listes de vote dans différents États. Je pense que j'ai bien expliqué dans mon tract comment marche le collège électoral et qu'on raisonne par État dans la campagne présidentielle. Par exemple, si Floride, on va compter les votes à distance pour la Floride, si à la fin de la journée mardi, Biden a la Floride, je pense que c'est fait. Biden sera président. Donc, on se rend compte que avoir la victoire dans tel ou tel État avec un tel nombre de votes électoraux est vraiment, vraiment essentiel. Donc, carte postale qui disent, on a la liste des gens, donc on met l'adresse et on fait un petit mot, cher Jean. Vous êtes sur la liste pour votre État, c'est pour vous rappeler qu'il faut voter, votre vote et votre voix et votre pouvoir, etc.
Ce qui était extraordinaire, Alice Kaplan, c'est qu'on avait vanté la modernité d'un Obama lorsqu'il se faisait élire et réélire parce qu'il avait inventé des systèmes par téléphone portable, smartphone, etc., etc., pour toucher les électeurs qui n'allaient pas voter. Et on revient avec ce que vous nous décrivez à la question de la carte postale. C'est assez extraordinaire. On se dit, tout compte fait, chacun écrivant à quelqu'un d'autre, ça a peut-être plus d'efficacité que d'avoir un algorithme sur un téléphone portable pour pouvoir convaincre
les gens de voter. Ça touche les gens de voir la main, l'orthographe de quelqu'un. Moi aussi, je reçois des dizaines de textos tous les jours, des deux côtés d'ailleurs. Les Trumpistes ont eu mon numéro de téléphone, alors je reçois des demandes d'argent à longueur de journée.
C'est d'ailleurs, Myriam Vrovo-Dallone, vous qui vous intéressez depuis très longtemps à la question de la démocratie, c'est au cœur de votre propre travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement de cette expérience que nous décrit Alice Kaplan, qui rendrait optimiste d'une certaine façon en se disant, si chacun prend sa plume, eh bien, on peut peut-être convaincre quelques personnes qui n'étaient pas convaincues auparavant et ne pas passer par les moyens technologiques modernes.
Alors oui, moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est comme si on retrouvait derrière, au fond, l'anonymat des réseaux sociaux, qui est d'ailleurs un véritable, dont on sait que c'est un véritable fléau, cet anonymat, parce qu'il permet des passages à l'acte inadmissibles, mais on retrouve une espèce de, je ne dirais pas de, non pas de personnalisation des rapports, mais on retrouve quelque chose au fond d'une individualisation des rapports, on retrouve quelque chose d'une, je dirais presque d'une chair du monde, d'une chair de la société, enfin presque, non pas les contacts physiques parce que ça se fait par correspondance, mais quand même c'est quelque chose de beaucoup plus charnel, de beaucoup plus concret que des textos ou des algorithmes sur portable qui sont beaucoup plus impersonnels. Et c'est vrai que peut-être en arriverons-nous au point où nous aurons envie de renouer avec ce type d'échange.
Oui,
et au fond, de renouer véritablement avec... Alors, je sais bien que nous ne sommes plus dans l'Athènes de Périclès au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais enfin, de renouer, au fond, avec les conditions du débat public et ce qu'on appelle le fait de vivre ensemble les uns avec les autres.
Ouais, vous êtes optimiste, Alice Kaplan, sur ce type d'initiative que vous menez avec d'autres, justement?
Oui, oui. Parce que c'est le militantisme que j'ai connu à 20 ans, quoi. En parlant aux gens, en faisant de porte à porte, ce sont des tactiques, des méthodes du vivre ensemble, justement. Même vous décrire les cartes postales, je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie dans ma voix que quand je dois évoquer des semaines et des semaines avec des cours sur Zoom et des étudiants qui sont un peu perdus et qui souffrent beaucoup de ne pas avoir de contact.
Bien sûr.
Alors on fait ce qu'on peut et peut-être que le Covid va finir par nous apprendre à valoriser d'autres façons d'être.
Merci à toutes les deux. Merci à vous, Alice Kaplan. Je rappelle que votre très beau texte, il faut le saluer pour Gallimard, s'intitule Turbulence USA, Turbulence USA 2016-2020. C'est un grand format dans la collection Tract Gallimard et que, par ailleurs, effectivement, vous nous avez fourni et nous vous en remercions pour la conversation mondiale de ce jour. Un beau texte qui est une sorte de post-scriptum à cet ouvrage que vous avez publié chez Gallimard. Quant à vous, Myriam Revault-Lalonde, un grand merci d'avoir dialogué avec Alice Kaplan. Votre livre s'intitule « La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun ». Merci et bon week-end à toutes les deux. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baye et Imane Gilles. À la technique avec nous aujourd'hui, Anthony Thomasson et Alexandre Manzanares étaient avec nous à la réalisation. Demain, vous retrouverez Raphaël Bourgois à 18h10 pour un temps du débat du samedi. Vous savez, depuis plusieurs semaines désormais, il y a un temps du débat le samedi animé par Raphaël Bourgois. Il sera consacré demain aux impacts du confinement que nous connaissons sur la culture.